Bonjour tout le monde. Ce matin, on commence une nouvelle série. On a intitulé « Souffrance et gloire ». Souffrance et gloire. On commence une nouvelle série dans la première lettre de Pierre. Alors, ce matin, je vais prendre le temps d'introduire cette série, vous la présenter un peu pour vous encourager à vous engager avec nous dans la série. Vraiment à se lancer avec nous dans la série, lire ces cinq chapitres-là. On va faire une approche différente. Dans les dernières années, on a fait beaucoup de vols en haute altitude au-dessus d'un passage. Des fois, c'était même dérangeant. Je pouvais prêcher sur trois chapitres dans la Bible avec un exposé. Mais là, on va faire du vol en rase-motte. D'accord? Rase-motte, vous traduirez ça. Donc, on va faire du vol très, très près du texte. On va passer 18 dimanches matin dans cinq chapitres. Et c'est intentionnel, ça nous permet d'aller voir autre chose dans le texte biblique, d'aller beaucoup plus loin dans le texte, vraiment de décortiquer toutes sortes d'idées qui sont présentes. Une des choses que vous allez pouvoir apprécier, c'est combien la Bible est riche, combien c'est une littérature qui est extraordinairement riche, qui se tient beaucoup. Donc, beaucoup de références à l'Ancien Testament. Et puis, lorsqu'on prend le temps un peu de faire les liens, ça nous permet de plonger davantage encore dans le texte et puis apprécier davantage l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est vraiment le message central de la Bible. Donc, on va passer 18 semaines. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous encourager à prendre le temps de lire et relire 1 Pierre. Et peut-être pour quelques-uns d'entre vous, vous êtes plus à un endroit où vous êtes en train d'explorer le christianisme. Vous êtes ici pour découvrir, vous êtes ici en train de vous interroger. Bien, je vous dirais, ça vaut vraiment la peine. Prenez le temps, venez pas seulement le dimanche en vous disant « Ah, on est, ah oui, 1 Pierre, il me semble, je comprends rien. » Vous allez voir, ce matin, on se concentre sur deux versets, puis c'est dense. Il y a du stock, comme on dit au Québec, dans ça. Ce que je voudrais vous encourager à faire, si vous êtes en train de réfléchir, explorer le christianisme, décidez de lire le passage avec nous sérieusement. Puis, moi, ce que je vous dis, là, c'est que le 21 juillet, lorsqu'on va terminer cette série-là, vous allez être en belle position pour prendre une décision par rapport au christianisme. Vous allez avoir une très bonne compréhension du message central de la Bible, d'accord? Donc, je vous encourage à le faire. Je vous encourage aussi, lorsqu'on fait une série comme celle-là, à profiter de la technologie au maximum. Si vous êtes absent un dimanche, ça vaut vraiment la peine, lorsqu'on plonge comme ça dans un texte, de prendre le temps d'aller écouter l'exposé que vous avez manqué. Question de rester ensemble en église, grandir ensemble, mais juste suivre le fil aussi. Et puis peut-être d'inviter aussi. Inviter un ami la semaine prochaine qui dit « Écoute, tu me parles de ton affaire, la Bible, je sais que c'est important. En Occident, la Bible, c'est un livre fondateur, peut-être, oui, un jour. » Ça peut être une belle occasion d'inviter ou d'inviter un chrétien qui n'est pas vraiment intégré dans une assemblée. Puis à travers ce temps qu'on va passer dans la parole, il va pouvoir découvrir ça. Maintenant, pourquoi aller vers cette lettre-là? Pourquoi aller vers 1 Pierre? Il y a 66 livres dans la Bible, on peut se promener pas mal. Pierre aborde deux thématiques principales. Et j'aimerais ça vous lire une petite citation. Tirer en fait la Bible du Sommeur, la Bible d'étude dite du Sommeur. Puis voici l'introduction qui est écrite, je trouve que ça résume bien. Le but de la lettre ressort clairement du contenu. L'apôtre Paul, qui est l'auteur, veut encourager les chrétiens à tenir ferme devant l'épreuve et la persécution imminente. Des enseignements sur le sens de la souffrance encadrent un développement sur la bonne conduite que doit adopter le croyant au milieu d'un monde qui lui est hostile. Donc, l'Église sentait déjà que ça chauffait à l'époque, sentait déjà qu'il y avait des endroits, des moments où ce n'était pas facile de s'afficher comme chrétien. Pierre anticipe ce qui s'en vient pour les chrétiens et il décide de leur présenter une manière de voir les choses. Et on va déposer ça ce matin ensemble. Il leur dit, vous êtes de passage sur la terre. Notre citoyenneté est ailleurs et il veut préparer les chrétiens à dire, OK, on ne va pas vivre reclus dans un monastère caché, on va vivre au milieu des gens, mais en même temps, vous allez vivre par moments qu'on ne fait peut-être pas partie à 100% de ce monde-là. Et Pierre veut déposer ça. Et il dit, il va y avoir de la souffrance qui va accompagner cela. Et de la souffrance, Mais la réalité, c'est qu'on va tous en vivre. On va tous en vivre. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Maintenant, qu'est-ce que le christianisme, qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur notre manière de vivre la souffrance? La Bible parle énormément de souffrance. Qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner sur notre manière à nous, comme chrétiens, de vivre ça? Et de vivre dans un monde qui n'est peut-être pas tout à fait le nôtre, puis en même temps de briller, de porter le parfum de Christ au milieu de ce monde-là. On va aller dans un mot de prière, puis on va lire plus que deux versets ce matin. On va lire en fait une section dans laquelle on va être pour plusieurs semaines. D'accord? Allons dans un mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous éclaire, qui éclaire notre intelligence, qui excite aussi, Seigneur, nos affections, nos désirs, même nos émotions, Seigneur, à vivre comme tu veux qu'on vive, Seigneur. Ben, j'ai constamment besoin d'être éclairé et rééclairé encore une fois par ta parole, Seigneur. J'ai constamment besoin que tu renouvelles mon intelligence, Seigneur. Et Père, il y a des gens, on a parlé de souffrance. Déjà ce matin, après quelques minutes, on a parlé de beaucoup de souffrance un peu partout dans le monde. Et les frères et sœurs de l'Église ici qui passent par le deuil, Seigneur, qui souffrent. Père, on veut te demander à travers cette série de nous interpeller, de nous faire grandir, de nous aider vraiment à ancrer, à déposer nos pieds fermement dans l'Évangile de Jésus-Christ, Seigneur, afin de vivre dans cette vie comme toi tu nous appelles à l'être, et puis de savoir comment porter ce parfum de Christ dans un monde qui trouve des fois que l'Évangile ne sent pas si bon que ça, Seigneur. Et pourtant, l'Évangile est merveilleux, ton amour est merveilleux parce que tu es merveilleux. Viens nous parler ce matin. Nos cœurs sont à l'écoute, notre esprit est à l'écoute. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Nouvelle édition de Genève, 1 Pierre 1, versets 1 à 7. 1 Pierre 1, versets 1 à 7, Nouvelle édition de Genève. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
Merci, Judith. Alors, ce matin, on va se concentrer sur les deux premiers versets. Deux versets seulement. Mais il y a beaucoup de choses dans ces deux versets-là. En fait, lorsqu'on décide de survoler la Bible à la plus haute altitude, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours énormément à dire. C'est juste qu'on veut peut-être souligner d'autres thèmes puis voir les Écritures sous un autre angle. L'introduction de la lettre de Paul, hein, c'est une lettre. D'accord? C'est une lettre. Celle-là, c'est une lettre circulaire, c'est-à-dire c'est une lettre qui avait été écrite pour être envoyée à plusieurs églises dans cinq régions en fait de l'Empire romain qui sont nommées ici au début. Donc c'est pas une lettre qui est destinée comme admettons la lettre à Philémon ou la lettre à l'église d'Éphèse. C'est une lettre qui devait circuler. Elle est écrite par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui fait partie des 12 apôtres. Et donc, c'est le mot apôtre, ça veut dire messager. Donc, c'est le message qui a été donné par Jésus-Christ à son messager pour les églises de cette région-là. En gros, c'est ça si on met ça en français. Maintenant, dans ces deux versets-là, Pierre va faire une allusion extrêmement importante à l'Ancien Testament, puis ça va nous aider à comprendre le texte, puis ça va devenir pertinent pour l'ensemble de la lettre au complet. Il y a quelque chose d'étrange qu'il mentionne, je vais juste vous relayer les deux premiers versets. En tout cas, je ne sais pas si ça sonne étrange dans votre oreille, mais pour moi, ça l'était, tant que je ne le mettais pas dans son contexte. Il dit au verset 2, « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu, ou, dépendamment de votre version, selon le plan de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » J'ai beau, ça sonne encore drôle dans mon oreille, cette affaire-là. Participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. En fait, si vous n'êtes pas chrétien, ça peut même sonner... C'est pas appétissant, tu sais. De quoi il parle? Pierre est en train de faire une allusion claire, puis je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin, au moment où le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, est entré dans une alliance avec Dieu. D'accord? Au moment où ça s'est passé, alors le peuple d'Israël était esclave en Égypte, Dieu les libère de l'esclavage et les conduit au désert, au mont Sinaï. Dieu va se révéler davantage à eux, va prendre le temps de leur faire connaître qui il est et il va inviter le peuple d'Israël à entrer dans une relation permanente avec Dieu en disant « Voici ce que je vous offre, je vais être votre Dieu. » Vous n'allez pas passer votre vie à vous inventer des dieux comme les autres peuples autour. « Je vais être votre Dieu et vous allez être mon peuple. » Et au moment où cette alliance-là, c'est vraiment une alliance entre des hommes, un peuple et Dieu, au moment de sceller cette alliance-là, Moïse va faire quelque chose. Moïse se trouve devant le peuple, il va relire la loi. Voici le contrat qu'on signe ensemble. Je suis marié depuis 26 ans, bientôt 27 ans. Esther et moi, nous avons contracté une alliance. On a fait un contrat moral ensemble. Au moins un contrat d'amour et de fidélité. Bon, ben, Moïse leur relit le contrat, et puis, spontanément et justement, le peuple d'Israël répond en disant, « Nous allons obéir, nous allons honorer cette alliance. » Le peuple d'Israël, tout le monde, unanimement dit, « Nous allons obéir au contrat, nous allons respecter cet engagement. » Et puis ensuite, un sacrifice est fait avec des taureaux qui sont sacrifiés, qui annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ. C'était des symboles qui annonçaient le sacrifice à venir. Et puis Moïse va littéralement asperger le peuple de sang pour dire, vous êtes consacrés, vous êtes à la fois purifiés et consacrés. Et c'est à ça que Pierre est en train de faire allusion ici. Donc Pierre est en train d'écrire à des chrétiens et de leur dire, « Vous, les chrétiens, dispersés dans ces cinq régions de l'Empire romain, vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes l'Israël de Dieu, composé de juifs et de non-juifs. Vous êtes le peuple choisi par Dieu le Père, consacré par l'Esprit, appelé à obéir et à participer à l'aspersion du sang. » C'est vraiment important de savoir ça pour comprendre ce que Pierre est en train de dire ici, comprendre ce que ça représente aussi pour les chrétiens qui sont dispersés dans toutes ces régions-là. Pierre est en train de le dire, c'est vous maintenant le peuple de Dieu. Et vous allez voir, il y a encore d'autres allusions à l'Ancien Testament. On va voir ça dans ce qui suit. Ça ne sera pas tellement long. Mais voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Puis, ça résume un peu toute la lettre de Pierre, d'accord, aussi? Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer à travers des plus petites sections, je vais résumer ces sections-là autrement. Mais quand vous voulez retenir ce qu'on voit à travers l'exposé biblique, bien, cette proposition-là, ce résumé-là, résume ce que j'essaie, comment je comprends le texte. Chaque chrétien est tout à la fois étranger ici-bas et chez lui en tout lieu, parce que Dieu l'a choisi et consacré pour porter le parfum de Christ dans ce monde. Je répète ça. Chaque chrétien est à la fois et tout à la fois étranger ici-bas et chez lui en tout lieu, parce que Dieu l'a choisi et consacré pour porter le parfum de Christ dans ce monde. Étranger, puis chez nous, parce que tout est à Dieu et donc tout est à nous. Mais on va développer ça tranquillement à travers la série. Étranger. 1 Pierre 1:1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Je vais juste faire une petite observation. Souvent, les lettres commencent en étant adressées à des églises. Cette lettre-là n'est pas adressée à des églises, elle est adressée à des individus qui sont dispersés. C'est intéressant quand même. C'est une des lettres où on peut vraiment s'appliquer constamment, personnellement, même s'il va parler après ça du fait qu'on fait partie de l'Église. Ça va venir un peu plus loin. Cet édifice que Dieu a construit, on fait partie d'une Église locale, on fait partie de l'Église de Christ, mais c'est adressé à des individus. Et ils appellent des étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pierre commence en disant « Vous êtes des étrangers. » Vous êtes des étrangers. Puis là, il parle de la dispersion, la diaspora. Certains d'entre vous, particulièrement ceux qui sont immigrants, vous êtes plus familiers. Même aujourd'hui, on va parler de la diaspora camerounaise, qui est à Longueuil, qui est un peu réunie hier soir ici avec notre frère Victorien, n'est-ce pas? Donc, des gens qui viennent du Cameroun puis qui sont dispersés de par le monde. Puis Pierre est en train de parler à des chrétiens, puis il dit « Vous êtes la diaspora, vous êtes des étrangers dispersés. » Et il y a une allusion dans ça à tous ces moments où le peuple d'Israël n'était plus en Israël, mais avait été déporté. Quand Israël avait péché, il y a eu quelques déportations, et Israël était déporté, donc le pays était conquis. Et puis, c'était la méthode à l'époque pour régner, on divisait. Hein? Donc, on prenait comme les meilleurs éléments d'un peuple, on les déportait ailleurs si on était en train de construire un empire, puis on laissait des nouvelles personnes là, puis ça nous permettait de prendre le contrôle de la place tout en laissant l'économie locale continuer à rouler pour que ça nous rapporte des impôts, d'accord? Donc, on ne veut pas fermer un pays, on veut qu'il roule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va déporter, on va amener des gens chez nous. Et plus loin, l'apôtre Pierre va dire « les élus à Babylone ». Plus loin dans sa lettre, il va parler comme s'il était à Babylone. Mais on sait que Pierre n'est pas à Babylone à ce moment-là, il est plutôt à Rome. Et Pierre est en train de comparer la ville de Rome comme la grande Babylone de l'Ancien Testament, celle qui se rebelle contre Dieu, la ville qui s'oppose à Dieu. D'accord? C'est des allusions à l'Ancien Testament lorsque le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Puis le peuple d'Israël avait appris à vivre dispersé. C'était la diaspora juive. Elle était dispersée un peu partout. En fait, quand Jésus vient, puis on arrive à la Pâque, bien, il y avait des Juifs de partout, de toute la diaspora dans l'Empire romain qui descendaient à Jérusalem, pas simplement partout en Israël qui descendaient à Jérusalem, mais des gens de partout dans la diaspora. Puis lorsqu'on arrive à la Pentecôte, au début du livre des Actes, il y a des Juifs de la diaspora qui sont présents au moment où l'Esprit va venir descendre sur les disciples. Puis certaines de ces régions-là sont mentionnées ici dans la lettre. Fait qu'on pourrait même spéculer que certains des lecteurs de cette lettre-là avaient été présents à la Pentecôte. C'est même possible. On n'a pas de preuves. Ça pourrait même être le cas que certains d'entre eux qui reçoivent la lettre de Pierre étaient là quand Pierre a reçu l'Esprit Saint au début. C'est même une possibilité. Et donc, Pierre est en train de nous dire, non seulement l'Église est le peuple de Dieu qui choisit d'obéir, qui participe à l'aspersion, comme j'ai dit tout à l'heure, mais plus que ça, nous sommes aussi comme ce peuple qui avait été déporté, qui est jamais vraiment chez lui, qui est toujours un peu étranger. Et donc, Pierre est en train de placer un thème important de sa lettre. Il dit, les chrétiens sont appelés à se voir comme ne faisant jamais tout à fait partie du monde qui les entoure. C'est pas qu'on est complètement séparé, on va pas vivre, comme je disais, dans un monastère caché, on vit parmi les gens, puis les valeurs des cultures qui nous entourent sont parfois en harmonie avec la Bible. Tout être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais souvent, dans ces cultures où les chrétiens ont vécu depuis 2000 ans, il y a des éléments dans la culture qui sont parfois complètement en désaccord avec la parole de Dieu puis avec l'Évangile. Puis on est là comme chrétiens, puis on essaie de communiquer à nos enfants nos valeurs, puis on essaie de vivre nos propres valeurs. Puis des fois, on est aimé, des fois, on est toléré, des fois, on est haï. C'est la réalité. Puis actuellement, sur la terre, il y a des chrétiens qui vivent à un endroit, ils sont aimés. À un autre endroit, d'autres chrétiens vivent, ils sont tolérés. À d'autres endroits, ils sont carrément détestés parce qu'ils sont vus comme ces étrangers qui sont menaçants. Jamais tout à fait intégrés. C'est l'image qui est donnée de c'est le cas actuellement en Chine. Bon, maintenant, la Chine est en train de, je le dis à plusieurs reprises, la Chine est en train de sévir contre toutes les religions en réalité parce que c'est un régime athée qui ne peut contrôler que si c'est l'État qui dicte comment tu vas penser. D'accord? Donc, toute religion est suspecte parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a plus d'autorité sur la manière que je vais penser que l'État, c'est mon Dieu. Donc, toute religion est suspecte, l'islam aussi l'est, mais particulièrement les chrétiens parce qu'il y a des millions et des millions et des millions de chrétiens en Chine et l'État est inquiet de ces gens qui ne sont jamais vraiment intégrés, qui ne sont jamais tout à fait citoyens. Étrangers parmi le monde. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce. Puis pourtant, le peuple de Dieu, mais étranger. Et Pierre est en train de nous préparer à apprendre à vivre dans une culture où on veut aimer les gens, puis en même temps, il y a des choses où culturellement, ça ne fonctionne pas. En Occident, on ne vit pas ce que les chrétiens vivent en Chine actuellement. Si vous pensez que c'est difficile d'être chrétien ici, il faut voyager un petit peu, les amis. C'est facile d'être chrétien ici actuellement. Mais la réalité quand même, c'est que l'Occident a été construit sur une philosophie judéo-chrétienne, une vision de l'être humain judéo-chrétienne. Et on observe à vitesse grand V que tout ça est en train de s'effriter. D'accord? Donc, dans la vision du monde d'un chrétien, chaque être humain, quelle que soit sa religion, a été créé à l'image de Dieu. Chaque être humain est sacré, la vie humaine est sacrée. Notre culture nous dit, « Ah, mais tant qu'on ne t'a pas donné un nom, tu es juste des molécules. Tu n'es pas sacré, on pourrait t'éliminer. Puis si tu n'aimes plus la vie, ben, tu peux demander à mourir aussi parce que tu n'es pas sacré et après, il n'y a rien qui se passe probablement. » Ça, ce n'est pas la vision du monde sur laquelle l'Occident a été construite. D'accord? La justice puis la vérité n'existent pas vraiment. La justice, c'est la culture qui le détermine. Aujourd'hui, c'est bien, demain, ça sera mal. L'Occident n'a pas été construit sur ça. L'Occident a été construit sur l'idée que le bien et le mal existent, qu'on doit avoir un système de justice qui va juger le bien et le mal. Mais on est en train de dire, non, on peut se réinventer complètement. On n'a pas besoin de ces fondements-là. On peut tout réinventer de A à Z. Je pense qu'on va faire le saut à un moment parce qu'on ne se réinvente jamais à partir de rien. Hein? On est fils de quelqu'un, puis on a un héritage. Mais c'est ce qui est à la mode actuellement. La vision du monde judéo-chrétienne, c'est que Dieu t'a créé comme tu es. Et Dieu a exprimé sa bonté à travers la manière qu'il t'a créé. Tu aurais voulu mesurer 6 pieds 8, mon Yannick, ou avoir des cheveux jusqu'à ta mort, mais Dieu t'a aimé, puis il a permis que tu mesures 5 pieds 8, que tu sois gros comme un pou, puis que tu perdes des cheveux en vieillissant. C'est Dieu qui est mon créateur. J'ai un créateur. Non, j'ai plus de créateur aujourd'hui. C'est moi qui me crée. Je vais me recréer comme je veux. Même mon ADN n'a rien à dire sur qui je suis. Je vais me recréer, peu importe ce que mon ADN a à dire. Ma biologie est même plus importante. Vous voyez? Donc, on est en train d'essayer de tout remettre ça en question. Alors, nous, on est là comme chrétiens, puis on se dit, aïe, aïe, ça s'arrête où, cette affaire-là? Parce que là, je vais enseigner mes enfants quand même avec des valeurs que moi, je crois, tu sais. Puis là, on dit à mes enfants, les valeurs que tes parents m'ont enseignées ne sont pas bonnes, tu ne devrais pas leur enseigner, ils ne devraient pas t'enseigner ces choses-là. Fait que c'est un peu freakant. Ouais, la lettre de Pierre est intéressante, très intéressante dans ces circonstances-là. Puis on va avoir le temps de développer ça ensemble dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais je lance une toute petite invitation. Si tu dis, je pense que je ne suis pas chrétien encore. Ça se peut que dans ton cheminement, il y a un moment où tu dises, je ne suis pas chrétien, mais je me reconnais de moins en moins dans les valeurs qu'il y a dans le monde ou celles qui sont toutes en train d'émerger. Ça se peut que tu te sentes de plus en plus étranger aussi. Et peut-être que Dieu est en train de parler à ton cœur à travers ça puis est en train de t'appeler à l'Évangile. Mais Pierre nous dit que bien que nous soyons étrangers, on n'est pas apatrides. On n'est pas sans patrie. On n'est pas des étrangers sans patrie. Regardez ce qu'il dit au verset 2. « Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. » J'aime bien la version du Sommeur qui dit que Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan. Vous n'êtes pas sans patrie parce que Dieu avait un plan. Et oui, je suis désolé, la Bible parle de l'élection. Les chrétiens aiment ça se diviser autour de l'élection. Gros débat. Je ne vais pas rentrer à savoir comment fonctionne l'élection. Ce qui est important de savoir par rapport à l'élection, là, c'est que la Bible enseigne l'élection. Si vous dites, ah, moi, l'élection, je ne suis pas capable. Mais c'est correct, c'est juste que c'est un des éléments les plus importants de toute la Bible. Dieu choisit toujours son peuple. Dieu choisit toujours son peuple. Après ça, est-ce que c'est l'approche, je vais vous partir, est-ce que c'est l'approche calviniste qui est la bonne, ou est-ce que Dieu nous a élus sachant d'avance qu'on allait accepter? Bon, là, on pourrait débattre ensemble, ça serait une belle conversation à faire ensemble, mais ce n'est pas l'objet de ce texte-là. L'objet de ce texte-là, c'est que Dieu avait un plan. Dieu avait un plan, et ce n'est pas par accident si tu es chrétien. Dans la vision chrétienne du monde, Yannick, ce n'est pas le fruit du hasard. Bertrand, ce n'est pas le fruit du hasard. David, ce n'est pas le fruit du hasard. Lucie, ce n'est pas le fruit du hasard. Dans la vision chrétienne du monde, il y a un créateur qui a créé l'univers et qui a fait un plan, qui a arrêté des desseins qu'il avait pour l'histoire des hommes. Ces desseins-là impliquaient même notre salut. Alors, il va dire, par exemple, que Christ, au verset 20, a été prédestiné avant la fondation du monde pour être celui qui allait nous sauver. Même ça, c'était conçu avant la fondation du monde. Et donc, d'une manière mystérieuse, c'est vrai, avant même que je devienne chrétien, avant même que je naisse, Dieu m'avait déjà choisi. Dieu m'avait déjà prédestiné. Avant même que je vienne au monde. Et pour moi, comme chrétien, c'est une grâce incroyable. Puis, Pierre ajoute à ceci que ce n'est pas seulement Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu le Père qui t'a choisi. Il n'y a aucun chrétien qui est un enfant non désiré. Parce que notre Père avait choisi de nous avoir. Je ne peux pas tout expliquer, l'élection, comment ça fonctionne, la souveraineté de Dieu, mes décisions à moi. Il y a une part de mystère dans ça. Mais j'ai désiré mes enfants. Et mon épouse et moi, on a désiré des enfants. Nos enfants ne sont pas non désirés. Et comme enfants de Dieu, même si parfois je me sens étranger dans ma culture, j'ai l'impression de ne pas être tout à fait chez moi puis d'attendre quelque part d'autre qui va être plus chez moi. Je sais profondément, dans mes tripes, dans mon âme, que je ne suis pas un enfant non désiré. Je suis un fils spirituel de Dieu parce que Dieu le Père m'avait choisi avant même que mes parents décident d'être ensemble puis d'avoir des enfants. Et donc, si on est étranger, on n'est pas apatride. On a une patrie. Notre patrie est avec Dieu, notre Père. Notre patrie est avec celui qui nous prépare une place au ciel. Notre patrie est avec celui qui revient bientôt. Et donc, on n'est jamais orphelin comme chrétien. Ce sentiment d'être orphelin que peut donner une vision très matérialiste. On est juste de la matière. On est juste de la matière, je dois me réinventer, je porte le poids sur mes épaules de me trouver moi-même. Je dois trouver c'est quoi le sens de mon existence, je dois trouver comment je vais m'accomplir, je dois trouver comment je vais me réaliser. Comme chrétien, je réalise que j'avais déjà été trouvé avant même de naître. Avant même de naître physiquement, avant même de naître spirituellement, j'ai été trouvé parce que j'ai été choisi. Et donc, Dieu était actif dans mon salut avant même que mon esprit commence à s'éveiller à l'Évangile. Et je ne peux pas tout expliquer ça, les amis. Mais je le sais parce que la parole de Dieu me le dit, et je le sais parce que je l'expérimente dans ma vie. Parce que je vois la main de Dieu agir dans ma vie. Et beaucoup de chrétiens, après s'être convertis, disent, d'autres diront que c'est des coïncidences, mais je vois la main de Dieu agir dans ma vie avant ma conversion, bien avant ma conversion. Dieu le Père. Ainsi, Dieu est le créateur de tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Mais Dieu n'est pas le Père de tous les êtres humains. Dieu est le Père de ceux qu'il a choisis pour être dans sa famille. Et peut-être que ça vous trouble, puis vous dites, je ne suis pas sûr si je veux devenir chrétien dans une affaire où tu me dis que c'est eux, il y a ceux que Dieu a choisis. Moi, ce que je te dis, c'est, écoute ce que l'Esprit est en train de te dire. D'accord? Écoute ce que l'Esprit est en train de te dire. Parce qu'il y a une grâce extraordinaire à savoir que Dieu veillait sur moi avant que je naisse, que Dieu veillait sur moi dans mes années d'errance où je ne le connaissais pas, et que Dieu veille sur moi jusque dans l'éternité. Parce qu'il n'y a pas un chrétien qui est un enfant non désiré. Ça n'existe pas. Peut-être non désiré de tes parents terrestres, mais du seul vrai Père parfait, il n'y a pas de chrétien non désiré, ça n'existe pas. Dieu a donc été actif dans notre salut. Et je ne sais pas si vous aviez vu dans le passage, mais on voit les trois personnes de la Trinité qui sont présentes. Choisis par le Père, consacrés par l'Esprit, pour obéir au Fils, participer à l'aspersion du sang. Y a des théologiens qui appellent ça... Ordo salutis, l'ordre du salut. Puis j'aime bien cette citation qui nous aide à voir ça un peu. Le salut trouve son origine dans le cœur du Père, est opéré dans des vies humaines par l'Esprit Saint et est mis en évidence à travers l'expression d'une foi personnelle en Jésus-Christ. Dieu t'a choisi, il t'a appelé. Dieu va te consacrer à travers l'œuvre de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Dans les Écritures, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie spirituelle. C'est lui qui nous amène à être régénérés. On va voir ça dans les prochaines semaines. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous donne un cœur nouveau pour voir les choses autrement, pour aimer la parole de Dieu, pour aimer même la loi de Dieu, prendre plaisir dans les commandements de Dieu, pour choisir une vie différente. Il vient révolutionner notre vision de nous-mêmes puis du monde. Et cette œuvre-là de transformation profonde, c'est l'Esprit Saint qui vient l'opérer en nous. Et donc, c'est lui qui nous consacre. C'est lui qui va nous consacrer pour servir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre Jésus-Christ. On va devenir des imitateurs de Christ. Lui, il a été le Fils parfait et nous, on va devenir ses imitateurs. Donc, c'est l'ordre du salut. Comment est-ce que l'Évangile, comment est-ce que le salut s'opère en nous? La théologienne Karen Jobs dit, c'est l'Esprit Saint qui éveille dans nos cœurs un premier désir de chercher Dieu, qui éclaire notre intelligence pour saisir l'Évangile, qui nous convainc de péché, nous rassure du pardon et transforme notre caractère pour porter un fruit divin. Je trouve que c'est bien dit. Pour nous consacrer. Certaines des traductions disent pour notre sanctification, d'autres disent pour notre consécration, puis ça fait appel à deux aspects du même mot grec qui est là. Y en a un qui définit notre position. Le Saint-Esprit nous met à part, comme le peuple d'Israël était consacré à servir Dieu, c'est notre position, d'accord? Et l'autre parle de notre transformation, comment est-ce qu'il vient nous former. Donc, d'une part, le Saint-Esprit fait deux œuvres, il me consacre, Il vient en moi, il habite en moi, j'appartiens à Dieu maintenant, j'ai cette vie de Dieu en moi. Et d'autre part, cette vie-là vient me rendre capable, vient me transformer à l'image de Christ. C'est vraiment les deux œuvres de l'Esprit, d'accord? Et c'est pas clair, c'est pas 100% clair à quoi il est en train de faire allusion ici. Je pense qu'avec la suite, lorsqu'il va parler de l'obéissance, il est en train de parler de cette transformation que Dieu opère en nous. C'est mon impression, mais peut-être que c'est pas ça exactement. Vous avez été choisis, vous avez été consacrés pour porter le parfum de Christ dans ce monde. Pour porter le parfum de Christ dans ce monde. J'ai mentionné que ça faisait allusion au passage dans Exode 24. Je vais vous lire le passage, d'accord? Puis vous allez le voir. Donc, je vais vous lire plusieurs versets. Exode 24, versets 3 à 8. « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel, pas un autel pour aller dormir, mais un autel pour offrir un sacrifice, au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, c'est-à-dire des sacrifices, immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce, pour la consécration et par reconnaissance. Il prit le livre de l'Alliance dans lequel il avait écrit tout ce que Dieu avait dit. Il le lut en présence du peuple, donc il leur rappelle. Vous êtes certains, les boys? Vous voulez embarquer dans cette alliance-là? Il leur relit, d'accord? En présence du peuple. Et ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Puis Moïse prit du sang et il le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous. » Selon toutes ces paroles. Maintenant, si vous connaissez l'Ancien Testament, c'est comme la déclaration d'Israël, c'est comme la déclaration la plus gratuite que tu peux faire. T'sais. On va faire tout. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a parti un chrono, mais ça se compte en minutes avant qu'il commence à désobéir. Puis toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est la rébellion constante d'Israël, l'incapacité d'Israël à respecter leur part du contrat. Mais le contrat est très clair. Avant que le sang soit aspergé, il y a un engagement. C'est quoi l'engagement? Nous allons obéir. Et donc, comme chrétiens, ce que Pierre est en train de nous dire, c'est que, oui, on est étrangers sur la terre. Oui, des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas tout à fait. Mais en même temps, on n'est pas apatride. Dieu nous a choisis. Si tu es chrétien, c'est parce que tu as aimé, le Père t'a aimé, l'Esprit t'a consacré pour que l'Église de Jésus-Christ puisse être ce qu'Israël n'a pas été dans l'Ancien Testament. Être obéissant et participer à l'aspersion de Jésus-Christ, à expérimenter l'Évangile et à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est vraiment intéressant, cet ordre-là même qu'on voit dans ce passage-là où ça prenait cet engagement-là. Si dans ta vision du christianisme, les gens, quelqu'un te prêche l'Évangile, tu sais, t'es en train de découvrir l'Évangile, puis on t'annonce l'Évangile, puis on te dit, écoute, Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, il veut pardonner tous tes péchés, puis l'Évangile s'arrête là. C'est pas l'Évangile, ça. Ça, c'est juste une partie de l'Évangile. L'Évangile, c'est beaucoup plus que ça. Dieu veut te racheter d'un style de vie qui est à la fois une offense à Dieu et qui est contre ta propre nature. Tu as été créé à l'image de Dieu. Il y a un style de vie qui est conforme à ce que tu es profondément puis qui honore Dieu. Et ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut te racheter de ce style de vie-là. Il va effacer tous tes péchés. Il va pardonner tous tes péchés par l'aspersion du sang, tu vas être pardonné. Mais toi, tu t'engages à suivre Christ. C'est ton engagement. Et contrairement à l'ancienne alliance, où l'Esprit de Dieu était sur le peuple, avec le peuple, les prophètes avaient annoncé que dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu viendrait faire sa demeure dans chacun des chrétiens. Il nous rendrait donc capables de marcher selon la loi. Cette loi de Christ est maintenant inscrite dans nos cœurs. Alors, on n'est pas parfait, là. C'est pas qu'on est rendu parfait. Ça c'est lorsque je vais avoir ma promotion pour aller dans la gloire, dans la présence de Dieu. Hein, on dit, les chrétiens, lorsqu'ils partent, on dit, il a été promu dans la gloire. J'ai tellement hâte d'être promu dans la gloire, les amis. Je vais arrêter de pleurer sur mes péchés. J'ai tellement hâte d'être promu dans la gloire. Fait que c'est pour plus tard, vous comprenez? On n'est pas parfait. C'est pas qu'on est parfait. Mais lorsque je crois dans l'Évangile, je comprends que j'entre dans une alliance avec Dieu. J'entre dans une alliance qui va faire de moi un étranger. Parce qu'avant de devenir chrétien, je n'étais pas étranger dans le monde. Je faisais entièrement partie du monde. J'étais chez moi, fils de cette culture-là à 100%, adoptant ce style de vie-là. Confus peut-être comme la culture, avec des belles valeurs puis avec des très mauvaises valeurs, mais je faisais partie de ça. Puis un jour, quelqu'un m'a parlé de l'Évangile, puis il y a quelque chose qui a commencé à résonner en moi, dans mon cœur. Il y a quelque chose qui a commencé à prendre un sens nouveau. J'ai été interpellé, puis là j'ai dit, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, une autre vie à laquelle on serait appelé? Est-ce qu'il y aurait vraiment un Créateur? Est-ce qu'il y aurait vraiment un Dieu? Est-ce que ce Dieu-là ne serait pas non seulement un Créateur, mais notre Père, celui qui veut être mon Père à moi? Est-ce qu'il m'aurait aimé vraiment au point de donner son Fils pour que mes péchés puissent être pardonnés et que je puisse être intégré dans cette famille? Est-ce qu'il m'aurait aimé au point de prendre quelqu'un d'imparfait et pécheur comme moi et de me donner son Esprit Saint qui va venir faire sa demeure en moi, puis je vais être consacré à Dieu pour participer, pour obéir, pour imiter Jésus-Christ, mon frère et mon Seigneur, puis porter ce parfum-là de Christ. Et peut-être que Dieu est en train de t'appeler. Peut-être que Dieu est en train de t'interpeller. Peut-être que Dieu l'a fait. Si tu es chrétien, c'est ça qui s'est passé. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je veux terminer sur la bénédiction qui est prononcée à la fin. Et puis ce matin, on aura mis la table pour cette série-là, d'accord? Mais on va terminer avec la bénédiction. Comment les Juifs, quelle bénédiction les Juifs prononcent-ils sur les uns sur les autres? C'est quoi? Vous savez c'est quoi? Shalom? Le shalom, ça veut dire la paix. Puis c'est très vaste comme concept, le shalom pour les Juifs, c'est la faveur de Dieu. C'est la paix dans ta vie, c'est la paix dans ton cœur, mais c'est la paix qui est produite par le fait que Dieu est avec toi et t'es favorable. Et donc, si tu croises un Juif, puis que tu lui veux du bien, salue-le en lui disant « Shalom ». Tu lui offres la paix de Dieu. Tu désires, t'appelles la faveur de Dieu sur lui. Maintenant, pour les chrétiens, le shalom se trouve où? La paix se trouve où? La paix se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre paix. Il est notre shalom. C'est lorsque je crois en Jésus-Christ que je suis réconcilié avec Dieu. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais que je suis un bien-aimé de Dieu. Je ne suis pas un enfant non désiré. Puis Dieu m'est favorable. Et dans le langage chrétien, comment est-ce que ça s'appelle ça? La grâce. La grâce. La faveur de Dieu qui nous est donnée comme un cadeau divin. Et donc, Pierre termine, après avoir dit à ses chrétiens, « Vous êtes des étrangers. C'est normal ce que vous expérimentez, vous êtes des étrangers, vous êtes dispersés. Mais rappelez-vous d'une chose, vous n'êtes pas orphelins, vous n'êtes pas apatrides, vous avez un Père au ciel qui vous a choisi avant même que vous naissiez. Vous avez été consacrés parce que vous êtes habités de l'Esprit Saint. Et donc, vous êtes rendus capables maintenant de porter le parfum de Christ dans ce monde. Alors, voici ce que je vous dis maintenant. Que la grâce et la paix ou soit multiplié. Qu'elle vous accompagne. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, on veut t'adorer. T'es merveilleux, Seigneur. Et c'est vrai que parfois, on regarde les choses aller, puis on est préoccupé, puis on aime les gens autour de nous, puis on veut leur parler de toi, mais des fois, on a de l'air d'arriver comme un cheveu sa soupe, un chien dans un jus de quilles. On a de l'air de ne pas avoir rapport, Seigneur. Puis parfois, les gens nous le font sentir. Parfois, c'est nos peurs à nous qui mettent ça de l'avant, Seigneur. Mais Seigneur, on veut se rappeler qu'on n'est pas sans patrie. On n'est pas sans parents. On n'est pas sans être aimé, Seigneur. Et Seigneur, on veut se rappeler que ton esprit nous a été donné. On a été consacrés pour être transformés à l'image de Christ, pour entrer dans cette obéissance à Christ, grâce à l'Évangile de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, multiplie tes grâces et ta paix sur nous, Seigneur, afin que nous puissions être un parfum de Christ dans cette ville de Longueuil, autour de nous, dans nos familles, au travail, Seigneur. Et entre nous, Seigneur, accorde-nous de se rappeler les uns aux autres l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Amen.